Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Au début des années 70, en France, les événements intellectuels se succédaient à un rythme fou. Chaque jour apportait ses nombreux lots de livres, de revues, d'interventions, de débats, de combats qui bouleversaient la pensée, transformaient les pratiques et renouvelaient le monde. Ce fut le cas en 1974 avec la parution du livre du docteur Frédéric Le Boyer intitulé « Pour une naissance sans violence ». Accueillir un nouvel être au monde devenait tout à coup un fait culturel de première importance et non plus simplement un fait naturel. Le Boyer incita les mères à conduire au mieux cette relation amoureuse qui la lie à son enfant. Avec lui, la maternité devenait une forme unique et raffinée de l'hospitalité, mais aussi un lieu de pensée et une voie royale du déploiement de l'intelligence féminine. Le 16 avril 1974, Nadine Nimier diffusa sur France Culture un débat, ou plutôt une conversation, entre le docteur Le Boyer, Jacqueline Manicomme et Françoise Dolto.
Dernière respiration, juste avant la naissance. Premier cri. Première communication entre la mère et l'enfant.
Naître, c'est passer d'un monde dans un autre. Naître, ça n'est pas un commencement. On imagine toujours que la vie commence à la naissance. Et en fait, la naissance n'est qu'un passage d'un monde à un autre monde, d'un niveau à un autre niveau. Le traumatisme de la naissance, ça n'est pas autre chose que l'intensité des sensations qui assaillent l'enfant et le fait qu'elles l'assaillent toutes ensemble. L'enfant est submergé par un raz-de-marée au moment où il vient au monde. Et il crie, il hurle comme pour rejeter ce trop-plein de sensations qu'on lui a jeté à la figure. On lui jette la vie à la figure. Et la naissance, c'est en fait, c'est la leçon de toute la vie. Au moment où on vient au monde, on reçoit toute la vie d'un bloc. Et c'est tellement énorme que la réaction de non, de refus, est fatale. Il a dit que toute angoisse n'était que la réactivation de l'angoisse de la naissance. Je dis, ne mettez pas de lumière aveuglante. Je dis, ne parlez pas fort, et même encore mieux si possible, taisez-vous. Je dis, prenez votre temps, ou plutôt laissez à l'enfant le temps de naître à son rythme. Je dis toucher l'enfant avec ménagement et avec respect. Et au fond, je dis essentiellement, tâchez de voir l'enfant tel qu'il est. Tâchez de faire abstraction pendant quelques minutes de ce que vous êtes, de ce que vous voulez.
Il y a beaucoup là-dedans, dans ce document, n'est-ce pas, Frédéric Le Boyer? D'abord, vous avez tous entendu un extrait de naissance. Vous avez assisté à une naissance différente, à la naissance d'un bébé mis au monde par Frédéric Le Boyer, et dont vous avez entendu un extrait de la bande sonore. Et puis, il y a aussi cette réflexion, ces réflexions sur la naissance, dont nous allons parler tous ensemble. Et puis, il y a ce nouveau regard sur l'enfant. Alors, Frédéric Le Boyer, Jacqueline Manicom, qui est sage-femme, et le docteur Françoise Dolto, qui est psychanalyste, je vais vous demander ce que vous pensez l'un de sa méthode, l'autre. Comment cette méthode pourra être repensée, peut-être dans un cadre plus large, hospitalier, peut-être, Françoise Manicom. Et puis, en quoi, nous verrons après, en quoi ce livre, ce document, cette expérience sert-elle la psychanalyse, sert-elle le contact avec les enfants? Nous allons voir cela pendant cette heure.
Mais auparavant, j'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs que nous sommes là pour répondre à leurs questions aussi en direct. L'émission doit se faire avec eux. Alors notre numéro de téléphone, 520-0550, je pense que Frédéric Le Boyer sera très heureux de répondre et on pourra ainsi savoir quelles sont les réactions des gens. 520-0550. Nadine Nimier.
Frédéric Le Boyer, vous n'avez pas de réponse.
De réponse à quoi?
Vous tourniez la tête lorsqu'on vous demandait de répondre au téléphone. Non. Bien, alors nous passons au sujet. Dites-moi, vous avez en quelque sorte redéfini la naissance, redéfini l'accouchement en vous tournant non plus seulement vers la mère, mais vers le nouveau-né. Ça a l'air très nouveau.
Rien n'est nouveau. On redécouvre perpétuellement des choses oubliées. Je dis des choses très simples, si simples même que je me défends que ce soit une méthode, et on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une méthode. Justement, nous sommes submergés de méthodes et de techniques, et je demande que pour un instant, on les oublie toutes. Je dis cette chose très simple, un nouveau-né n'est pas un objet, c'est d'une certaine façon une personne. Traitez-le donc en personne et non pas en objet.
Mais
point, c'est tout.
Est-ce que vraiment on l'avait oublié?
Je crois.
Je pense qu'on a
Jacqueline
eu.
Manicom.
Je pense qu'on a eu souvent, qu'on a quelquefois, souvent, tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier parce que on a une manière d'accoucher. En tout cas, dans le cadre moderne actuel de la vie en Europe, on a le même rythme pour mettre les enfants au monde, que ce soit dans les cliniques à grand rendement ou dans les hôpitaux publics à grand rendement, que de faire des voitures à la chaîne. On a tendance un petit peu à compter cela. On a fait 10 accouchements dans sa garde, on a totalisé sur le grand registre noir 10 ou 12 accouchements, le chef de service est content.
Ah oui, c'est une performance?
Ah ben pardon, je comprends, ça ne signifie pas qu'il gagne beaucoup d'argent.
Non.
C'est pas lui qui touche l'argent à l'hôpital, par contre en clinique c'est lui qui le gagne. Et c'est personnellement, par exemple, je me suis déjà élevée dans un ouvrage récent contre ces deux aspects, si vous voulez, l'aspect argent du côté des accoucheurs de clinique qui totalisent, tiens, cette nuit, nous avons fait 10 accouchements, ça représente tant d'argent.
Et c'est affreux.
Et à l'hôpital.
Frédéric Le Boyer.
Non, je vous en prie.
Et à l'hôpital, ce n'est certainement pas l'aspect financier qui est en jeu, j'en suis à peu près sûre, mais c'est l'aspect prestige. Dans telle maternité parisienne ou d'une grande ville française, on aura fait 4000 accouchements par an ou on aura fait 10 accouchements par garde et le chef de service se frotte les mains. Il se soucie fort peu de ce que représentent 10 ou 12 accouchements faits par une sage-femme dans une nuit, par exemple, et ce que peut être le 9e ou le 10e accouchement. Je me suis élevée déjà contre cet aspect des choses.
En tant que sage-femme, mais vous vous élevez aussi contre la mère, contre le traitement infligé à la mère, contre celui de l'enfant?
Je ne voudrais pas garder le micro.
Non.
Écoutez, moi je voudrais dire ici que je ne m'élève contre rien ni contre personne. Et je voudrais dire clairement que je ne fais le procès de personne. Je parle de choses de nouveau très simples. Je ne cherche pas à mettre en cause qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je veux revenir à ces choses très simples. Je dis simplement, nous avons méconnu jusqu'à présent, sans doute, la souffrance émotionnelle, sentimentale du nouveau-né Nous n'avons pas imaginé que ce soit déjà une personne ou que les circonstances de sa naissance pouvaient l'affecter et le marquer. Et c'est ce sur quoi simplement j'ai voulu ramener l'attention. Je tiens à préciser aussi qu'il ne s'agit pas de souffrance fœtale. La souffrance fœtale étant une réalité médicale que je n'ignore pas et que personne ne n'ignore, et dont il est très important de ne pas la méconnaître. Mais d'abord, comme son nom l'indique, elle touche le fœtus, c'est-à-dire l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. La souffrance dont je parle est une souffrance morale, et je pense que personne ne confond le mal que peut faire, par exemple, un abcès, et puis la souffrance, la peine, le chagrin que peut causer la perte d'un être cher. Je pense qu'on a méconnu, on a négligé, ou on n'a pas pu admettre, on n'a pas voulu admettre qu'un nouveau-né puisse avoir des réactions émotionnelles de cette nature, et je dis que si, et qu'il faut se conduire avec lui en conséquence.
Qu'en pense le docteur Dolto? Est-ce que vous pensez qu'un enfant, un nouveau-né, non, un pas encore né dans le fœtus, ressent...
Nous parlons du nouveau-né, disons.
Nous parlons ici du nouveau-né, et les travaux que nous faisons, ce sont les enfants qui sont nos maîtres en psychanalyse d'enfants. Et notre attitude est une attitude d'écoute et d'écouter la souffrance qu'ils traduisent de ce qu'ils ont vécu. Or, ce que vous disiez tout à l'heure est exact, c'est toujours sur le modèle de la première angoisse que toutes les mutations qu'un être humain a à vivre vont se remodeler. Il va, si la mutation de naissance s'est passée d'une manière humaine, eh bien, toutes les crises de mutation qu'un être humain a passées vont aussi pour lui, a priori, être vues comme quelque chose qui va se passer bien. Autant pour la mère que pour l'enfant, d'ailleurs. Mais même si la mère n'est pas là, c'est... Je parle d'enfants qui ont perdu leur mère. Eh bien, c'est eux qui gardent toute la charge qui a été partagée entre eux et la mère. Il y a une angoisse à la naissance, autant pour l'enfant que pour la mère. C'est très difficile de savoir lequel des deux. Et ce que je trouve admirable dans le film que j'ai vu de Dr Lavoyer, c'est justement, on voit la mère qui sait qu'un accouchement, ça doit être quelque chose de brutal, qu'on doit gueuler, que l'enfant doit hurler, qu'elle s'étonne, elle se dit, mais alors, il ne va pas bien, puisqu'il ne hurle pas. Mais pourquoi parlez-vous tout bas, docteur? Elle lui dit, chut, chut. Enfin, il la calme, et alors elle comprend peu à peu. Et puis, au moment du bain, quand il lui dit, vous pouvez mettre votre main pour toucher le bébé, mais elle n'ose pas, un bébé, il était à l'intérieur, comment une main qui est son revêtement de peau, comment va-t-elle savoir le toucher? C'est l'affaire des techniciennes, toucher un bébé. On dirait vraiment de nos jours que les mères ont, pour leurs grands-enfants, des livres entre elles et eux, des maîtresses entre elles et eux, et quand ils sont petits, c'est l'accoucheur entre elles et eux, c'est l'assistante sociale, c'est l'infirmière, mais elles, les pauvres femmes, elles n'ont pas pu défendre leur point de vue de mère, et c'est... Une mère ne sait pas parler, elle sait être, elle sait... Mais même ça, peu à peu, elle perd confiance dans sa manière d'être avec son corps vis-à-vis de son enfant. Et c'est ça que ce film redonne, c'est l'intuition première d'une mère chez qui la relation à l'enfant est ce qu'il y a de plus intime et qui tout d'un coup doit se faire dans une foire, dans un hurlement qui est tout à fait contraire à ce qui est l'éprouvée intime qu'une mère éprouve vis-à-vis de cet enfant qui, pour elle, apparaît pour la première fois.
Il faut dire que, pour expliciter un peu ces thèses, Frédéric Levoyer a fait non seulement un livre, mais également, ce que vous venez de dire, un film.
Oui.
Un film très court qui a un succès assez extraordinaire.
Enfin, qui n'a été partout. Vu encore pour l'instant qu'en privé, qui, je pense, va faire son chemin.
Oui, alors
qui, auprès des spécialistes, rencontre un succès assez
étonnant. Ah oui, il a été primé, il a reçu de grandes distinctions et il a retenu beaucoup l'attention.
Et on le montre dans le monde entier. Et vous...
Pas encore, on va le montrer, j'espère.
Mais enfin, une fois encore, enfin, vous m'avez dit vous-même que vous reveniez d'Iran.
Il y a quelque chose qu'il faut dire à propos de film, quand moi je l'ai vu la première fois, c'est qu'on se dit, c'est pas possible, cette femme connaissait le docteur Leboyer avant. C'est pas possible qu'avec quelqu'un qui l'aborde au moment de son accouchement, il y ait cette entente entre eux. Eh bien si, c'était une femme qui ignorait le docteur Leboyer avant. C'est pas ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un accouchement eugénique, pourrait-on dire, tout à fait.
Je pense qu'il serait maintenant temps de rentrer dans le détail, au fond.
Oui, c'est
expliciter
parce que...
un peu la façon dont ça se passe. Auparavant, je voudrais que vous répondiez à une question d'un auditeur, qui est M. Godet, qui vous demande si la présence du père est souhaitable ou non lors d'un accouchement.
Peut-être. C'est tout ce que je peux dire. Mais vous voyez, ça sort un peu du cadre de notre entretien, oui, puisqu'il s'agit de reconnaître la personne d'un enfant qui arrive.
Et de reconnaître. Le père a envie qu'on reconnaisse aussi sa propre personne.
Père. Mais certainement. Mais dans l'enfant, il est déjà intimement représenté père et mère. Mais le père. Ceci dépend des accoucheurs, et je crois, comme vous, qu'il ne faut absolument pas qu'on croie que, ni moi, psychanalyste, pas plus que vous, nous sommes contre les gens qui, par angoisse ou par ignorance, jusqu'à présent, n'ont pas compris que le bébé est un être humain total, chez qui la relation signifiante a un impact structurant ou déstructurant dès son origine.
C'est ça, la chose essentielle, c'est de reconnaître combien le nouveau-né est déjà sensible et combien ce qui lui arrive à cet instant déjà va laisser une trace pour toujours.
Alors comment faites-vous justement pour respecter cette nature sensible du nouveau-né?
Oui, parce que
comment ça se passe?
Frédéric Le Boyer, tout le monde n'a pas lu votre livre. Et nous sommes pénétrés de ce qui a pu être un enseignement qui nous arrive. Nous
avons tout vu le film. C'est encore un mot bien trop prétentieux.
Comment ça se passe?
J'ai dit tout à l'heure que ce qui fait le traumatisme de la naissance, c'est l'excès d'intensité et de variété des sensations qui accueillent l'enfant quand il arrive. Et en somme, j'ai essayé de, moi-même impressionné par les résultats qu'on pouvait obtenir dans l'accouchement sans douleur, l'accouchement concernant la femme, d'essayer d'en faire un prolongement pour l'enfant. Au fond, l'essentiel de l'accouchement sans douleur, c'est l'absence de peur. Et plus que accouchement sans douleur, on devrait dire accouchement sans peur.
C'est ce que pense Jacqueline Manco.
C'est absolument ce que je pense. Bien. Je le pense non seulement en tant que sage-femme, mais également en tant que femme, étant donné que j'ai accouché. Voilà. Et c'est une manière de se maîtriser. C'est un apprentissage pour savoir se maîtriser au moment d'une contraction utérine. Or, une contraction utérine n'est effectivement pas comparable à aucune contraction physiologique normale dans le corps habituellement. Tous les matins et tous les jours, notre estomac se contracte pour digérer. Nous ne le sentons pas. Et il arrive exceptionnellement dans nos vies de femmes que notre utérus se contracte. Il se contracte avec un bébé de 3,5 kg, 2 litres de liquide, un placenta qui pèse dans les 600 grammes, et c'est tout de même un événement. Et une contraction utérine n'est pas une chose banale, ni une chose insensible. Pour moi, personnellement, je la compare à une grande vague qui arrive dans un océan tranquille. Et cette vague, il faut faire face à cette vague. C'est ce que je dis aux femmes.
Ah, je crois que si vous permettez, je dirais que... Non, je ne dirais pas qu'il faut faire face à cette vague.
Il faut monter avec elle.
Ah, voilà. Il faut couler avec elle. Oui. Il faut monter avec elle. Il faut la suivre. Or, la peur, c'est le refus. C'est le blocage. Ouais. Et devant l'intensité de la vague, la femme a tendance à se bloquer et à refuser. À partir du moment où, au contraire, elle accepte, à partir du moment où elle coule avec elle, elle court avec elle, la douleur disparaît.
Ah, alors là, je suis désolée, monsieur.
Non, je vous écoute.
Je suis désolée de vous, non pas de vous contredire, mais au moins d'apporter une nuance à ça.
Oui.
Je pense que vous pouvez dire, vous, homme, à partir du moment où elle monte avec la vague, ou qu'elle se met en dessous, enfin qu'elle a une attitude vis-à-vis de cette vague, qui est une attitude d'entente, disons, la douleur disparaît. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne pense pas, et pourtant je pratique, j'aide les femmes, même celles qui n'ont pas été préparées, j'essaie d'elles, quand elles arrivent, de leur apprendre à respirer et de les aider à accueillir cette fameuse vague utérine. Oui, mais cette vague reste quand même quelque chose d'extraordinairement intense, d'extraordinairement violent,
Et débordant d'une certaine façon, bien souvent.
Sans aucun doute. Dans la mesure où les femmes, justement, ne savaient plus respirer et étaient déjà privées d'une bonne partie de leur capacité respiratoire.
Nous voilà en train de parler de l'accouchement. Je voudrais qu'on parle de la naissance.
Où la vague vient mourir ou s'écraser sur le sable. Là, il y a l'enfant. Qu'est-ce qui se passe d'habitude et qu'est-ce que vous faites à la place de cela?
Eh bien, très simplement, par exemple, il y a peu de lumière. On a conservé la lumière nécessaire pour l'accouchement, car il faut voir ce qu'on fait pour accoucher, mais accoucher, c'est encore la femme. Et puis, à partir du moment où l'enfant sort, et où donc, en quelque sorte, on peut dire que l'accouchement est gagné, eh bien, on ne garde qu'une lumière douce, non aveuglante, pour épargner les yeux du nouveau-né.
Mais vous n'êtes pas dans le noir.
Non,
pas dans le noir, vous êtes dans la pénombre.
Dans la pénombre, bien.
Voilà.
De même, on fait attention au bruit. Et on réalise, à partir du moment où on admet qu'un nouveau-né perçoit les sons, que étant donné que jusqu'alors les sons lui parvenaient, car il perçoit les sons dès avant la naissance, à partir du moment où l'écran protecteur des os maternels ont disparu, eh bien, les sons lui parviennent d'une façon tout à fait différente. Et je pense qu'il est intéressant, il est bon, justement, de parler doucement et de maintenir un niveau sonore modéré dans une salle d'accouchement.
Toujours pour ne pas créer de rupture.
Non, toujours pour ne pas choquer par un excès de sensation.
Je vous arrête un instant. L'enfant a vécu 9 mois dans le ventre de sa mère, avec le battement de son cœur, dont j'ai appris que ça représentait un bruit très, très violent, très, très intense. Oui. Donc, il a vécu 9 mois...
Il n'a pas vécu dans le silence.
Dans le bruit.
Mais c'est la rupture qui se produit au moment de la naissance, étant donné que, justement, tous ces bruits lui parvenaient auparavant, filtrés par les os.
Est-ce qu'on a pu mesurer, justement, ce qu'entendait le
bruit? Je ne sais pas. Je ne suis pas qualifié pour vous répondre. Mais simplement, si vous-même vous êtes mis dans l'eau, sous l'eau, si vous avez fait de la nage sous-marine, vous savez très bien que les bruits de la surface ou même que les bruits de l'eau vous parviennent très différemment.
Au fond, il est protégé par une espèce de bulle.
Hein? Cousteau a fait le silence de la mer et ce silence, ça signifie quelque chose.
L'enfant
Or, quand vous émergez tout d'un coup, vous êtes assailli par les bruits du monde aérien. Effectivement, l'enfant est protégé dans une sorte de bulle, et puis tout d'un coup, il en sort. Et à partir du moment où cette protection n'est plus là, je pense que il ne s'agit pas de supprimer les bruits, mais il faut faciliter, il faut apprivoiser en quelque sorte le passage d'un monde à un autre monde.
Donc la lumière, le bruit, et y a-t-il d'autres éléments?
Très
eh bien,
important,
oui, aussi,
le
par exemple, la façon de toucher l'enfant.
Oui.
Car un nouveau-né a d'une part une peau très sensible, et d'autre part... Ces sensations proprioceptives, c'est-à-dire qui viennent de l'intérieur du corps, sont très riches, étant donné en grande partie surtout que sa colonne vertébrale a encore la souplesse de la nouveauté. Et donc, dans la façon de toucher l'enfant, dans la façon de le manipuler, je crois qu'il faut une grande lenteur, une grande douceur et une grande continuité que souvent nous avons perdu dans nos gestes.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas le suspendre par les pieds ou par les bras, comme on le voit trop souvent, c'est ça?
Est-ce qu'on doit dire « il ne faut pas »
Ne disons pas « il ne faut pas ». Vous voyez, une fois encore, je ne veux pas m'inscrire contre ceci ou contre cela. Il ne s'agit pas du tout de faire une critique de ce qui s'est fait. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle direction, un point c'est tout.
Mais qui doit faire ces gestes dont vous parlez?
Eh bien, soit l'accoucheur, soit la sage-femme, puisque ce sont eux, en général, qui accueillent, qui prennent l'enfant.
Vous n'avez pas encore parlé d'un point très important, c'est que vous ne coupez pas tout de suite le cordon ombilical. Ça me paraît très
court. Je crois que c'est important.
Oui.
Mais on a toujours dit qu'il fallait attendre que le cordon ombilical ne batte plus avant de le couper. Hélas, moi-même, j'ai vu que bien souvent, on est trop pressé.
Jacqueline Manicom.
Oui, ça n'est pas une règle que d'attendre forcément que le cordon ne batte plus. Enfin, à l'école des sages-femmes, nous avions... il y a donc déjà 15-16 ans, fait une expérience. Ce n'était pas du tout concernant l'accueil de l'enfant à propos du cordon qui bat ou qui ne bat pas, c'était concernant les ictères. Et on s'était demandé si garder le cordon, attendre que les battements du cordon cessent, accentuer les ictères ou pas. Et c'était simplement à ce niveau-là.
Et alors ?
Il y a d'autres accoucheurs, enfin moi j'ai travaillé avec d'autres accoucheurs et des sages-femmes qui, personnellement, moi, c'était un peu ma position, je considérais au départ que tant que le cordon battait, au fond, ça apportait à l'enfant du sang, quoi, dont il pouvait avoir besoin. Et je n'avais pas pensé, pendant longtemps, je n'avais pas pensé à l'aspect affectif et psychologique de ce battement du cordon. Actuellement, je garde le cordon le plus longtemps possible, tant qu'il bat, lorsque tout va bien.
Mais là, par exemple, Frédéric Le Boyer, est-ce que pour vous, c'est fondamental, ce problème du cordon?
Écoutez, là, nous nous engageons sur une discussion médicale. Or, je crois que nous ne faisons pas une émission médicale, et je n'ai pas l'intention de discuter de problèmes qui sont purement médicaux ou biologiques, n'est-ce pas? Nous parlons de l'aspect psychologique affectif de la naissance, et je crois que c'est là où il faut rester.
Oui, je suis bien de votre avis. Et justement, je voudrais vous demander à tous si le nouveau-né a des souvenirs. J'emploie un terme, il faut bien l'employer. Et je crois que vous avez à ce sujet un épisode assez important.
Alors, j'ai reçu effectivement, par exemple, j'ai reçu pas mal de lettres à la suite de mon livre, et je pense par exemple à une lettre d'une lectrice du sud de la France, de la région de Privas, qui m'écrit, et je crois que je peux faire état de sa lettre, puisque justement elle me la propose à cette intention, elle me rapporte son expérience personnelle. Et elle me dit, je suis née en 1915, et un mois après ma naissance, je me retrouvais pupille de l'assistance publique, c'est-à-dire que sa mère l'avait abandonnée. Elle me dit, je passe sur mon enfance et sur ma jeunesse, qui ont été très heureuses car j'ai été élevée par une femme pleine d'affection et pleine d'amour. Et malgré cela, pendant toute ma vie, j'ai été poursuivie par un cauchemar qui se reproduisait une dizaine de fois par an. Dans ce cauchemar, je voyais une femme d'un certain âge s'approcher de moi. Elle était coiffée d'une charlotte, et la charlotte, parlait-il, est une coiffe assez spéciale de cette province, aussi spéciale que par exemple la coiffe des Alsaciennes. Donc elle dit, je voyais dans mon cauchemar une femme d'un certain âge s'approcher de moi, elle était coiffée d'une charlotte, et ses intentions étaient si manifestes, je voyais ses mains s'approcher de ma figure, ses intentions étaient si manifestes, que j'éprouvais une angoisse intolérable, et je me réveillais en hurlant. L'angoisse était si forte qu'il fallait pendant des heures me calmer, me consoler. C'est ma mère d'adoption qui s'en chargeait pendant ma jeunesse, et puis plus tard, comme je me suis marié, et que malgré tout ce cauchemar recommençait, c'était mon mari qui, au sortir de ses cauchemars, était obligé de me calmer. Or, à l'âge de 39 ans, j'ai par hasard retrouvé ma mère, et elle m'a expliqué les raisons de son abandon. Elle était tombée enceinte sans être mariée à l'âge de 18 ou 19 ans. Et quand sa propre mère, ma grand-mère, avait appris ça, elle s'était mise dans une violente colère. Et dans ce temps-là, ça devait sans doute souvent arriver. À quelque temps de là, ma mère accouchait. Et ma grand-mère, toujours furieuse, s'est jetée sur ma mère, l'a battue. Et bien plus, quand je suis né, a essayé de m'étrangler. Or, quand j'ai demandé qu'on me décrive ma grand-mère, j'ai reconnu le personnage de mon cauchemar. Elle portait la même charlotte et elle avait exactement les traits de cette sorcière qui hantait mes nuits.
Voilà, je pense que vous avez déjà répondu par avance à une question qui était beaucoup plus simple, oui. Qui nous vient de Madame Destinée, qui nous dit pourquoi, ou qui vous demande, comment pouvez-vous dire qu'il y a souffrance morale ou sentimentale chez le nouveau-né ? Alors, à partir du moment où vous parlez déjà de souvenirs...
Voilà. Je crois que c'est sur des faits de ce genre qu'on peut se fonder. Je demanderai à Mme Dolto du reste qu'elle en pense.
Comme vous dites très bien, Personne ne peut dire a priori que c'est un souvenir. Si cette femme n'avait pas eu cette preuve, on aurait toujours pu croire que c'était un cauchemar qui traduisait des sentiments qu'elle avait affabulés avec cette image.
Ou qu'on lui avait raconté.
Mais ça aurait pu être... quelqu'un de méchant dans sa vie, etc. Oui. Et là, vous en avez eu la preuve. Pour moi, c'est difficile de vous parler d'un cas tout à fait tellement clair qu'il s'agissait d'un enfant dont le souvenir remontait à 24 heures. Et dans son traitement, cet enfant qui était un grand inadapté mental depuis toujours et qui surtout n'avait jamais trouvé de sommeil. Et... dont je ne savais pas d'ailleurs qu'il était un enfant adopté, et c'est par là que je l'ai su. Cet enfant, dans une séance de traitement, a dit des paroles sur deux voix, une voix plaignante qui voulait garder le bébé et une voix agressive qui voulait le lui arracher, et il était comme un somnambule en parlant. Il ne se rappelait pas du tout la séance d'après ce qu'il avait dit, mais l'intérêt de la chose, c'est qu'il est parti et que la mère adoptive m'a dit, il faut que je vous voie. Il a dormi comme jamais de sa vie il n'a dormi. Elle est venue, je lui ai dit, il y a eu une dispute autour de cet enfant, et elle m'a dit, non, je ne vois pas. Et rompant pour une fois, justement pour savoir la question de ce qui s'était passé pour cet enfant, étant donné que c'était si grave et que ça a été vraiment la clé de son histoire, je lui ai dit, voilà les paroles qu'il a dites. Vous rappelez-vous, il y a dû avoir une dispute autour de lui. Elle m'a dit, mais c'est affreux. C'est ce qui se passait entre sa petite maman, qui était obligée de l'abandonner, à cause de la mère de la petite jeune femme, fille-mère, qui hurlait cela autour du berceau de ce petit, le jour où elle a été le chercher comme mère adoptive. Elle l'avait adoptée très précocement.
Donc l'abandon à 24
C'était
heures...
C'était une bande magnétique qui était enregistrée dans le cerveau de l'enfant et qui, au fur et à mesure de ce traitement psychanalytique, qui est un retour aux sources des plus grandes angoisses les plus précoces, puisque c'est ça à quoi notre travail correspond, c'est le retour des angoisses les plus précoces jusqu'au moment d'un équilibre, eh bien, c'est cela qui est sorti. Autre image, mais alors pour un bébé de 9 mois, c'est une adulte qui était atteinte d'une maladie incurable et qui, avant la dernière métastase qui l'a rendue infirme dans cette maladie, a fait un rêve. Elle était revenue souffrant beaucoup. Elle avait fait autrefois une psychanalyste, une femme très intelligente et remarquable, qui a dit « Il faut que je fasse aider parce qu'avec la cortisone, ça me rend tellement malade que je vous demande de m'écouter en psychanalyste. » Et puis, un jour, elle est arrivée avec un rêve extraordinaire, avec des phonèmes dont elle ne se connaissait pas le sens, que moi, à son parler, j'écrivais. Et elle m'a dit « J'ai éprouvé une joie profonde que de ma vie je ne croyais qu'on pouvait éprouver, un envahissement de bonheur intime étonnant en entendant ces syllabes. Et je savais, elle aussi, qu'elle avait été de 1 mois à 9 mois aux Indes, où son père avait une situation, et qu'elle était revenue des Indes avec ses parents, mais que pendant qu'elle était là-bas, elle avait été soignée par une jeune hindoue de 14 ans qui s'en était occupée avec beaucoup de tendresse. Je lui dis, mais est-ce que ça ne serait pas des paroles indiennes? Elle me dit, oh, vous croyez, ça serait drôle. Elle est en fait allée voir quelqu'un qui pouvait parler les langues hindoues, d'une personne à une, on l'a conduite à une qui dit, ah mais oui, c'est un dialecte de tel endroit, évidemment l'endroit où son père était en fonction. Et ça veut dire, ma petite chérie, dont les yeux sont plus beaux que les étoiles.
Ah, c'est merveilleux.
Ce sont des mots de nourrice.
Et justement, vous disiez qu'on ne chantait plus de berceuse. Vous en avez rapporté une d'Inde.
Oui.
Quelle jolie illustration.
Ceux d'entre vous qui prendraient l'écoute juste à ce moment, je vous rappelle que nous traitons d'un sujet extrêmement important, à savoir la naissance, avec Frédéric Le Boyer, Jacqueline Manicomme, Françoise Dolto et Nadine Limier qui a préparé ce dossier. Parmi les coups de téléphone que nous avons reçus, il y en a un, Jacqueline Manicomme, qui s'adresse à vous. Et ne pensez-vous pas qu'un enfant souffrirait moins si la femme était en position accroupie, lors de l'accouchement ? Madame Hunsinger, qui habitait Évry, qui nous pose cette question.
Il y a des femmes qui accouchent ainsi dans d'autres pays. Je ne sais pas si l'enfant souffrirait moins. Je ne me sens pas capable de répondre. Je n'ai pas fait d'accouchement dans cette position, en mettant les femmes dans cette position. Mais tout ce que je sais, c'est que les femmes qui accouchent de cette manière-là, par exemple, en Amérique latine, dans certaines tribus, les enfants n'ont pas l'air, ou en Afrique, les enfants n'ont pas l'air plus traumatisés que les autres, au contraire. Il y a pas de raison.
Le passage est-il tout de même accéléré du fait de la
présence? Dire une fois encore qu'on confond naissance et accouchement. Oui. On confond encore, comme toujours, la femme et l'enfant. Cette position peut soulager la femme, mais nous parlons de la naissance, c'est-à-dire du moment où l'accouchement est terminé.
Alors, je vous rappelle notre numéro de téléphone. Nous restons encore 20 minutes ensemble. 520-05-50. Nadine Limier.
Pourquoi la démarche de Frédéric Le Boyer intéresse tant les psychanalystes? Ça m'a tout de même frappée parce qu'il y a, disons, trois ordres de public qui s'intéressent à votre livre, oui, à votre film. Il y a les lecteurs, les femmes, les gens qui tombent sur ce livre, le public. Il y a les praticiens. Nous allons avoir en reparler et qui se divisent vraiment en deux catégories. catégorie presque inconciliable, parce qu'il y a vraiment les pour et les contre. Et puis alors, il y a les psychologues, les psychanalystes qui voient vraiment une ouverture. Et je voudrais savoir pourquoi.
Eh bien, parce que tout ce qui est traumatisme surajouté et inutile, souffrance inutile, nous, les psychanalystes, nous savons qu'il y a au cours de l'évolution d'un être humain des souffrances inévitables et résolutives et utiles. Celles-ci, nous pouvons aider un être humain à passer le cap. La naissance est une souffrance, certainement, cette mutation. Toute mutation est une souffrance. Faire le deuil d'un passé est toujours pour tout être humain une souffrance. Mais pourquoi en rajouter ? C'est ça. Éviter les souffrances inutiles, il me semble que c'est un être humain avec un être humain.
D'autant qu'à vous entendre, ça ne demande pas d'intervention extraordinaire.
Enfin, ça demande du bon sens, qui est une chose qu'on est en train peut-être d'oublier un peu.
Et alors, oui, le succès
il y a une question de... On a mis au point des techniques, on a mis au point des appareils qui, il ne faut pas l'oublier, sont toujours des perfectionnements de certaines de nos perceptions, de nos sens, qui ont été construits sous forme d'instruments. Et alors ensuite, on croit que c'est le progrès qui est cela. De ce fait, il ne faut rien concevoir comme c'était avant, depuis qu'on est dans le monde où la science a apporté des éléments de perfection à toutes nos perceptions. Eh bien, du coup, on ne connaît plus la relation directe d'être à être. Or, c'est celle-là qui commence au début de la vie, et c'est celle-là aussi que nous ne pouvons pas éviter devant toutes les souffrances. Mais le corps et l'intelligence et l'affectivité d'un enfant sont exactement les mêmes à sa naissance qu'il les aura toute sa vie. Le piano est là avec toutes ses touches, mais il n'a pas auditivement les mêmes fréquences qu'il aura plus tard. Il n'a pas, au point de vue touché, les références pour reconnaître les objets que peu à peu il va reconnaître. Il reçoit toutes ses perceptions en vrac, comme ça, et cet instrument si fin... Et cet instrument, oui, chaque fois qu'il y a une perception trop forte, quelle qu'elle soit, l'être humain s'escargote.
Voilà, si c'est aussi simple que ça, exactement. Voilà. Éviter tout excès. Car quand la perception devient excessive, elle devient douloureuse.
Voilà.
La douleur n'est qu'une question de quantité, de quantum.
C'est ça.
Or, il faut éviter justement qu'à la naissance, les perceptions, par leur excès, ne soient perçues comme douloureuses parce qu'excessives. C'est très simple. Vous savez, on a dit l'enfant est le père de l'homme, mais c'est vrai. Car l'homme est essentiellement le prolongement, le développement d'une structure qui s'est constituée au début. Et ce qui est important, c'est que cette structure se fasse bien et harmonieusement. Et surtout, sans refus. Et le refus est toujours la réponse à un excès. Vous voyez, il faut rester dans des choses très simples, très élémentaires, car la vérité est toujours très simple.
Mais comment passe cette simplicité dans les hôpitaux et dans les cliniques, par exemple? Est-ce qu'il y a un début d'application de ces principes?
Écoutez, je n'ai pas fait tous les hôpitaux de Paris depuis que M. Loyer a écrit son livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir comme un long poème sur la vie.
C'en est un.
Et je ne peux pas vous dire, personnellement, j'étais très très frappée par cela. Je l'étais d'ailleurs, j'étais déjà convaincue avant que le docteur Le Boyer l'écrive. Et si vous voulez...
Vous l'étiez nécessairement parce que vous êtes une femme et
déjà,
que profondément vous devez le sentir.
Mais je vais vous dire autre chose, je dirais que ça va... C'est avant même la naissance que cela commence.
Mmh.
Pour ma part, je considère que on est dans un monde archi-civilisé, plein de machines, etc. Et on a une manière d'aborder la conception, la grossesse et la naissance de manière particulièrement technique. C'est ainsi que, par exemple, quand une femme maintenant, qui est à peu près consciente, beaucoup de femmes, beaucoup de couples conscients veulent un enfant, ils ont une manière de s'adresser à leur gynécologue qui, si par hasard cette femme ne peut pas avoir d'enfant, bien on lui injectera des inducteurs, etc. pour pouvoir ovuler. Ensuite, il y aura une manière assez technique d'aborder l'embryon, le fœtus. Pour ma part, je vois que c'est tout cela qui est à remettre en question. Et quand on palpe un utérus, savoir palper un petit dos, caresser une petite main, taquiner un petit pied, doucement toucher à une petite tête en disant « ce n'est pas
une auteur utérine que je touche, que je palpe,
mais
que je
mesure.
Et c'est un bébé que j'ai entre les mains.
Est-ce que le bébé
enfant.
Reçoit ce
Et mais je suis certaine, et j'en ai discuté un jour avec Mme Dolto, je crois que j'étais venue vous voir un jour à ce sujet, j'ai discuté avec elle, avec vous. Je suis convaincue, moi maintenant, quand je palpe les femmes, et ça peut paraître ridicule, fou et tout ce qu'on veut, quand je palpe un enfant dans un utérus, je m'adresse à lui, je lui parle, je lui dis, mon bébé, tu es bien là où tu es maintenant, dans le ventre de maman. Et ton papa, est-ce qu'il t'aime? Il faut qu'il t'aime. Et je dis aux femmes, il faut que votre mari parle à leur enfant dans le ventre. Nous en avions parlé également. Parlez-lui, il entend. Et la manière dont on parle à l'enfant est certainement très très importante parce que l'enfant a certainement une manière de percevoir une voix qui ne lui est pas hostile. Voilà, qui ne lui est pas hostile.
Voilà. Françoise Dolto.
Moi, je crois qu'il perçoit la vérité du désir de communiquer à lui qu'à la personne qui lui est attentive en tant qu'un être humain. C'est ça. Il la percevrait en chinois, en araméen, en afghanistanais, en anglais. Ce n'est pas les mots. Mais si nous, qui sommes des adultes, nous ne disons pas en même temps les mots vrais que nous sentons, alors nous mentons. Si nous parlions simplement avec des borborygmes ou des onomatopées, nous ne serions pas nous-mêmes face à lui, car il y a une dignité, nous sommes lui. Nous n'avons pas à jouer les bébés parce qu'il est un bébé. Nous sommes un être humain qui parle à un bébé et qui entend notre intonation dans sa vérité, si vraiment nous sommes vrais. Mais il est certain que si des personnes qui n'auraient pas du tout cette attitude de respect le feraient pour singer les gens qui, soi-disant, ça serait une technique, absolument. Vaut mieux continuer ce qu'on fait, exactement. Parce que c'est plus authentique en rapport avec, justement, cette absence de notion que c'est un enfant. Car ce n'est pas du tout pour être méchant avec les bébés qu'on est comme ça. Parce qu'on n'a pas pensé.
C'est par aveuglement.
On n'a pas pensé qu'un bébé peut comprendre des paroles. Qu'un bébé de quelques jours, un bébé de quelques semaines encore plus et quelques mois, tout à fait, entend tout ce que vous lui dites et pourra supporter une épreuve si vous l'en avez prévenu.
Exactement. Le professeur Ribadeau-Dumas, qui était un grand pédiatre, disait à ses internes, à ses médecins, à ses infirmières, parlez au bébé. Et parlez-leur intelligemment.
Oui, et ne parlez pas...
Car ce sont les intonations...
Et ne parlez pas en le manipulant tout le temps. Que la parole soit une parole pour communiquer, en même temps qu'il est au repos à ce moment-là. Ne confondez pas les besoins du corps et, et les désirs de communiquer. C'est ça qui est très différent
toujours
chez
la
l'enfant.
Simplicité.
Oui,
et
puis que c'est un être humain qui a besoin de conversation déjà. Et très tôt, le bébé a besoin de conversation, indépendamment du fait qu'il a aussi besoin de soins. C'est pas très long, il est très vite fatigué. Mais c'est un baume, et ce sont, dans sa mémoire, ce sont des phonèmes qui sont porteurs de la présence maternelle, alors que même il commence à avoir faim, il commence à avoir des malaises, ces phonèmes qui lui ont été dits, et d'ailleurs qui sont dans les berceuses de temps de mère tout à fait normales et naturelles, c'est ça qui lui revient en esprit. Et c'est ça d'ailleurs que le bébé commence à croire qu'il dit quand il commence ses lalations. Les lalations d'un bébé sont très tôt des lalations qui correspondent à une certaine langue, celle qui lui est parlée, et pas les lalations des phonèmes d'une autre langue qui ne lui est pas parlée.
Et le bébé a autant besoin de ça que de lait ou de nourriture. On a dit, le nouveau-né, le bébé est un tube digestif. Non.
Pas du tout.
Il a besoin de cette nourriture matérielle, c'est vrai, mais il a besoin de l'autre aussi. Elle est même encore plus indispensable.
Certainement.
Voilà. Vous parliez tout à l'heure du progrès technique. Mais est-ce à dire que les conseils que vous donnez correspondent à ce qui était appliqué auparavant, il y a 2 siècles, 3 siècles? Oui ou non? On ne sait pas.
C'est une fausse question parce que vous voyez, on va nous dire, vous voulez revenir en arrière, vous êtes contre le progrès, vous êtes progressiste.
C'est une simple curiosité, c'est
pas ça. Non.
Oui, justement, Madame Messier vient de téléphoner et elle demande, ne pensez-vous pas que des anciens accouchements en famille, pas si anciens, n'avaient-ils pas une atmosphère plus propice à la naissance pour
sur
l'enfant?
Sur le plan de l'atmosphère, certainement. Certainement. Maintenant, sur le plan de la sécurité, manifestement, non. On a une sécurité technique quant aux aléas et aux difficultés de l'accouchement dans une maternité, un grand service hospitalier ou une clinique bien équipée qu'on n'a certainement pas à domicile. Mais sur le plan alors du climat affectif, effectivement, c'est tout à fait autre chose.
Et une jolie question de Monsieur Franche qui vous demande, ne pensez-vous pas que lorsqu'on accouche une femme, on a l'impression de renaître en même temps que cet enfant et de reproduire sur l'enfant ce que soi-même on a vécu? Ça pose une question assez profonde.
Mais c'est ce que j'ai dit dans mon livre. Du reste, que d'une certaine façon, c'est une obsession qu'on revit enfin. Et au moment d'une naissance, en quelque sorte, on revit sa propre naissance. On retourne à cet instant zéro.
Et bien, c'est pas comme ça que je le vis, moi, en tant que sage-femme. En tant que sage-femme, oui. Je ne vis pas comme si je naissais. Et il est vrai que je suis une femme. Oui. Chaque fois que je mets un enfant au monde, et que je me suis vraiment beaucoup occupée de la femme, et pendant son travail, et durant l'accouchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir accouché, moi.
Ah oui, vous avez...
J'ai l'impression d'avoir accouché, et il m'a été, pendant longtemps, il a fallu que je me dise, mais il a fallu que... chaque fois, j'ai l'impression d'avoir fait l'enfant, moi, et de l'offrir à sa mère. Et il a fallu un temps, si vous voulez, que je réfléchisse en disant, mais il faut que je change mon comportement, parce que ce n'est pas ça, c'est son enfant à elle, et je n'ai pas à dire, voilà, c'est
à le
mien,
prendre pour vous. Oui.
J'ai eu pendant plusieurs années ce sentiment. Oui, non pas de mon être, mais parce que je suis une femme, il est vrai.
Oui, mais un homme accouché.
Et puis, je crois que c'est une déformation professionnelle de la profession médicale et paramédicale. Le fait de s'intéresser à soigner quelqu'un, et il y a une identification à ses propres, à ses parents. On se sent... Il est aussi nécessaire à nous que nous avons été nécessaires à lui, et nous ne nous rendons plus compte qu'il a sa vie à lui quand c'est un adulte et qu'il... c'est à lui, en fin de compte, à décider, et pour un enfant, c'est à ses parents. Et pour un médecin, c'est très facile de tomber dans ce travers, et les études nous y préparent. C'est tout un travail, une attitude intérieure, chaque fois qu'il est dit, par exemple, c'est très simple avec des pédiatres, de leur dire, mais chaque fois que vous parlez de l'enfant à la mère, adressez-vous en même temps à l'enfant, tu entends, je parle pour toi. C'est tout simple. Mais ça change tout dans les relations de la mère et de l'enfant à lui-même.
Mais on imagine toujours que l'enfant ou un bébé ne comprend rien. Toujours. On imagine toujours que c'est un objet. Et on ne se rend pas compte à quel point, au contraire, ces perceptions même qui n'ont pas été encore conditionnées par le cadre restreignant du langage sont sensibles et extraordinaires. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'un bébé comprend tout. Tout
est-ce
en tout
que
cas,
ce n'est pas
beaucoup
de choses
que nous ne comprenons plus.
Une forme de langage animal.
Ah
Non, pas du tout.
Il n'y a rien d'animal chez l'humain. Est d'abord parlé avant d'être conçu. Il est parlé constamment tout le temps de sa gestation par ses parents. Oui. Et il est, dans son incarnation, ce qui, dans les paroles, ne pouvait pas se dire entre deux êtres qui s'étreignaient. Et c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Il est donc la perfection de la parole dans le silence efficace et la vérité des paroles qui sont dites. Eh bien, c'est l'enfant qui les manifeste. C'est pour ça qu'il est si près de la vérité et qu'il sent tellement la vérité de qui lui parle.
Il est le verbe fait chair.
Oui, absolument.
Je pense quand même que le retour à des principes aussi simples a dû susciter un certain nombre de réactions. Quelles sont les critiques que l'on
écoutez,
vous fait
c'est généralement pas, c'est pas un retour à des principes aussi simples, c'est un rappel de principes qu'on a oubliés. Je ne veux pas du tout récuser tous les progrès de l'obstétrique. Au contraire, nous les apprécions tous, et en grande partie, sans doute, l'accouchement sans douleur a pu voir le jour, à cause justement de cette sécurité qu'on offre aux femmes et qu'elles n'avaient pas dans le temps. Ça contribue donc justement à les mettre dans ce climat de non-peur, puisqu'elles savent maintenant qu'au fond, on a des solutions pour tous les problèmes que peuvent causer, provoquer un accouchement.
Et l'enfant qui a été accouché par vous, l'enfant qui a été accouché par vous il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, alors il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, comment est-il ? Est-ce qu'on le
sait ? Écoutez, on est en train justement de faire une étude systématique sur ces enfants, deux psychologues, Daniel Rapoport est une de ses amies que je ne connais pas, exprès justement pour qu'elle ne soit pas du tout influencée, sont en train de revoir ses enfants et les mères, naturellement, et d'essayer de démêler dans quelle mesure ces enfants sont différents.
Parce que tout à l'heure, vous citiez une phrase de Freud, « Toute angoisse n'est que la réactivation de l'angoisse de la naissance ». Ça donnerait une importance capitale au principe que vous énoncez.
Oui, certainement. Et ceci étant, et j'abonde de nouveau alors dans le sens de Mme Dolto, la naissance n'est qu'un instant privilégié. Tout ce qui s'est passé avant a aussi une importance considérable. Il ne s'agit pas du tout de la minimiser. Mais pour vous donner simplement un aperçu sur ce que sont ces enfants, vraisemblablement, je dirais que dans l'ensemble, ils sont libres de la peur. C'est considérable parce que nous ne savons pas à quel point nous sommes habités par la peur. Et il y a quelques jours, une femme me parlait d'un enfant qui maintenant a 1 an et demi et qui est né comme ça, que j'ai mis au monde, et elle me disait... D'abord que cet enfant lui semblait très différent de tous ses autres petits-enfants, petits-fils et petites-filles. Et je lui disais, mais dans quelle mesure ? Et elle me disait, mais écoutez, voilà, par exemple, il y a quelques jours, j'étais avec cet enfant, Et je l'ai assis sur un petit siège dans une pièce, et puis je l'ai quitté, je l'ai laissé seul. Et je suis allé dans la pièce à côté, et là j'ai observé ses réactions. Or je crois que nous conviendrons tous qu'habituellement, l'enfant à cet âge qui est laissé seul est pris de panique et se met à pleurer ou à hurler. Où est les mamans? Où est les mamans? L'angoisse d'être abandonné. Et à sa grande surprise, elle a vu que l'enfant regardait à droite, à gauche, se mettait à chercher, s'élever, et puis il a découvert sa grand-mère et il a éclaté de rire. Vous voyez, c'est une réaction assez... C'est très simple, mais c'est très exceptionnel. Pas de panique, pas de peur. Car cette angoisse de l'abandon, nous la portons tous. C'est pour ça que nous sommes si accrochés à nos familles, à nos amis, à notre travail, à nos collaborateurs. Nous ne supportons pas la solitude parce que c'est le rappel de cette angoisse de l'abandon. Oui, or, si on peut faire des enfants qui sont libres au départ, des êtres humains qui sont libres au départ de l'angoisse de l'abandon, je crois qu'on les aura beaucoup aidés. Oui.
Comment rejoindre tout ce que vous venez de dire avec une garde qui comporte 10 accouchements dans la nuit? Est-ce que le problème n'est pas là? Que faire?
Évidemment, au départ, quand je disais que je m'élevais contre le rendement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire par là que dans l'organisation de l'obstétrique telle qu'elle est actuellement en France, pas seulement en France d'ailleurs, on ne peut évidemment pas obtenir la même attention pour chaque femme. Si au départ, on peut faire la même chose pour le premier accouchement, le deuxième et le troisième, supposez à 2 heures du matin, si vous avez commencé votre garde à 11 heures, ou à 4 heures du matin, vous n'avez pas les mêmes possibilités. Donc, il faudrait réorganiser toute la structure obstétricale et surtout transformer les mentalités, c'est-à-dire changer les gens.
C'est surtout ça, parce qu'avec votre film, on s'aperçoit que ça demande quoi? 10 minutes par enfant.
Même pas, éventuellement. Même pas. Le film dure un peu plus, parce qu'il y a une recréation de la lenteur, en quelque sorte. Mais
c'est très frappant.
Même pas. Moi, je dirais, vous voyez, si on peut au minimum donner
la sérénité,
laisser 2 minutes,
deux ou trois minutes,
l'enfant sur le ventre de la mère, et puis le laisser 2 ou 3 minutes dans le bain, ça fait 6 minutes en tout. C'est pas terrible.
C'est pas terrible.
D'autant qu'on est obligé d'attendre au moins ce temps pour qu'un placenta se décolle.
Au moins.
À moins que, artificiellement, on ne provoque son expulsion immédiate. Ça, c'est autre chose. Mais vous savez, je crois que la question devrait se poser sur un plan beaucoup plus large, car tout se tient dans une société, et il ne s'agit pas de savoir comment on pourrait transformer l'obstétrique, mais au fond, c'est tout simplement remettre en cause les structures dans lesquelles nous vivons. Ça dépasserait largement le cadre.
Oui, le cadre de cette émission qui se termine.
Et je voudrais en terminant rappeler le dernier paragraphe de votre livre qui m'a beaucoup étonné, parce que là, ce que vous venez de faire passer, c'est au fond un message d'espoir. Et lorsqu'on lit ce livre, le dernier paragraphe est le suivant. Le rire et les larmes sont bien proches, et cette grande joie qui vous émerveille ne vaut guère mieux dans un sens que le chagrin. Ce n'est encore qu'un masque. Qu'y a-t-il alors quand l'enfant est sans masque? Qu'y a-t-il quand la joie comme la peine ont disparu? Rien, presque rien, regardez.
La sérénité.
Naître en refusant la peur, c'était un dossier préparé par Nadine Nimier avec Frédéric Le Boyer, Françoise Dalto et Jacqueline Manicom.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 avril 1974. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant 1 an sur le site de France Culture.